Boa tarde. Boa tarde, caros colegas. Espero que estejam a ver-me e a ouvir-me em boas condições técnicas. Gostaria de começar por vos dar as boas-vindas a todos os colegas presidentes das Comissões de Assuntos Europeus dos Parlamentos Nacionais, assim como a senhora vice-presidente do Parlamento Europeu e os deputados europeus que participam neste encontro. Gostaria de dar uma saudação muito especial a Michel Barnier pela sua presença e disponibilidade, mas também pelo excelente trabalho que tem vindo a desenvolver ao longo de muito tempo, com firmeza e com diplomacia em defesa dos interesses europeus. E também pela sua permanente disponibilidade para, transparentemente, estar connosco, no caso do Parlamento Português, em poucos meses. Esta é a terceira vez que nos visita. Agradeço igualmente a presença e a disponibilidade do deputado europeu David McAllister, que é o presidente do Grupo de Coordenação das Relações do Reino Unido com o Parlamento Europeu. Com esta nossa reunião, damos sequência à iniciativa alemã de, apesar do contexto de pandemia, manter um contacto intenso e frutuoso entre os Parlamentos Nacionais e a Comissão Europeia. É nesse sentido que voltaremos a encontrar-nos ainda esta semana, desta vez com a presença da Comissária Vera Jourova, e no dia 8 de 2, daqui por duas semanas, com a Comissária Stella Kyriakides. Para dar início à nossa sessão de trabalho, darei de seguida a palavra ao chefe da Task Force para as Relações com o Reino Unido, Michel Barnier, que disporá de cerca de 15 minutos, após o que darei a palavra por 5 minutos a David McAllister, ilustre membro do Parlamento Europeu e presidente do Grupo de Coordenação sobre o Reino com o Parlamento Europeu, como já referi. Abrirei seguidamente o debate, dando 2 minutos a cada orador. Temos 19 inscrições e, no final, para responder e para as considerações finais que considerar pertinentes, voltarei a dar a palavra a Michel Barnier. Portanto, caro Michel, a palavra é tua.
Personne ne s'occupe de ça. Est-ce que ça marche pas? C'est OK?
Oui, ça marche, Michel.
Très bien. Merci beaucoup. Arrivé juste comme cela pour m'exprimer, mais je me suis assis à cette table depuis à peine 2 minutes parce que j'étais à l'instant avec tous les ministres des Affaires étrangères réunis par Josep Borrell, le haut représentant, pour précisément leur parler de cette négociation. Donc, je suis très heureux de le faire à ton invitation devant les représentants de la COSAC. Je n'oublie pas quand je parle à la COSAC que j'ai été moi-même pendant très longtemps député et sénateur dans mon propre pays, ni les contacts très nombreux que nous avons eus, pas seulement au Portugal, mais dans beaucoup d'autres pays, à l'occasion de cette très longue négociation où j'ai tenu pendant ces 4 années, une fois, deux fois, trois fois, parfois 4 fois, à rencontrer les parlements nationaux, parce que je pensais, c'était aussi l'opinion du président Juncker et de la présidente Ursula von der Leyen, que cette négociation ne pouvait pas et ne peut pas être une négociation secrète. Elle concerne tellement de citoyens, tellement d'entreprises, elle met en jeu tellement de problèmes qu'il fallait assurer son caractère démocratique et sa transparence la plus totale. Voilà, je suis donc très heureux de vous retrouver depuis notre dernier échange le 17 septembre sous la présidence allemande avec le président Kirschbaum et de vous rencontrer au moment où nous sommes parvenus, enfin, la veille de Noël ou le jour même de Noël, à un accord sur le Brexit économique et commercial. Nous étions parvenus quelques mois plus tôt à un Brexit ordonné, politique et institutionnel, au terme duquel les Britanniques sont sortis de l'Union européenne le 1er février. Et maintenant, ils sont sortis le 1er janvier, également de manière ordonnée, du marché unique et de l'union douanière, comme ils le souhaitaient. Je pense que cet accord doit maintenant faire l'objet et sa mise en œuvre d'un suivi démocratique, d'un contrôle démocratique. C'est aussi l'esprit de ce dialogue que j'ai toujours eu avec les parlements nationaux, comme avec le Parlement européen. C'est un accord qui, compte tenu des circonstances exceptionnelles de cette négociation, par son ampleur, le temps très contraint, est fondé sur la base d'un accord EU only, mais il me paraît légitime et normal que les parlements y aient été associés en permanence au niveau de chaque pays comme au niveau européen. Et nous allons, c'est un des soucis très légitimes de David McAllister, du président Sassoli, de tous les groupes politiques, nous allons évidemment associer étroitement le Parlement européen, au-delà de son consent et du débat de ratification, à la mise en œuvre de cet accord à travers les travaux du Partnership Council, des comités spécialisés prévus par l'accord, et puis aussi à travers la constitution d'une assemblée parlementaire entre le Parlement européen et le Parlement britannique pour donner davantage de dimension à ce contrôle et à ce débat démocratique. Voilà. Je veux aussi rappeler que nous sommes engagés avec le Royaume-Uni à, dans cet accord, consulter régulièrement les organisations de la société civile pour sa mise en œuvre à travers un forum de la société civile. Voilà, et c'est le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, qui a été chargé de suivre l'ensemble de cette mise en œuvre, comme il le fait déjà efficacement pour l'accord de retrait. Juste quelques mots, si tu le veux bien, Président, sur le contenu de cet accord qui est fondé sur quatre piliers. Le premier pilier est celui, évidemment, du commerce, Free Trade Agreement, Free and Fair Trade Agreement. Ça a été une compétition, ça a été une négociation longue, difficile pour l'ensemble de notre équipe que d'obtenir l'équilibre entre ces deux termes, Free and Fair, Fair and Free. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois que, depuis 60 ans, nous négocions avec un pays tiers, un accord de commerce, dans un contexte de divergence réglementaire et non pas de convergence. Il s'agissait donc non pas d'encourager la convergence, comme nous l'avons fait avec le Canada, le Japon ou la Corée récemment. Il s'agissait d'éviter que la divergence que les Britanniques ont voulu, c'est même la raison d'être du Brexit, cette capacité autonome de divergence réglementaire ou législative, ne se transforme en un outil de dumping contre nous. Dumping social, dumping économique, dumping environnemental. Et nous avons des raisons d'être vigilants. Depuis quelques jours seulement, vous avez entendu, comme moi, des ministres britanniques évoquer une divergence réglementaire sur les services financiers, une deuxième divergence réglementaire sur les pesticides, une troisième divergence réglementaire sur la durée du travail. Donc, nous verrons bien ce que deviennent ces divergences, si elles créent des distorsions de concurrence, mais nous avons des outils dans cet accord pour précisément répliquer ou compenser si nous constatons que des divergences réglementaires créent des distorsions de concurrence et donc des risques de destruction d'emplois chez nous, dans tel ou tel de nos pays. Voilà. Le deuxième chapitre est celui de la coopération économique et sociale, ce qui prouve bien qu'il ne s'agissait pas seulement d'un accord de commerce, coopération pour l'interconnectivité des transports routiers et aériens, coopération pour l'énergie, l'interconnectivité électrique, coopération sur certains programmes de l'Union, même si nous regrettons beaucoup que les Britanniques aient choisi finalement de ne pas participer à Erasmus, c'est leur décision et nous la regrettons. Coopération en matière de pêche, ça intéresse 11 pays européens et en particulier 8 pays qui pêchent dans les eaux britanniques et nous sommes parvenus finalement au tout dernier moment, c'est une discussion qui a été très longue et très difficile, à trouver un accord raisonnable sur la pêche pour préserver l'accès aux eaux britanniques réciproquement à l'accès des entreprises britanniques à nos marchés. C'est ce que j'ai appelé l'accès réciproque des eaux et des marchés. Et puis enfin, un accord sur la gouvernance horizontale, globale de cet accord, de ce partenariat, avec pour la partie économique un règlement des conflits homogène et la capacité de suspendre telle ou telle partie de l'accord si l'autre partie viole ou contredit l'esprit général ou le contenu général. Il y aura donc des mesures qui pourront être prises à titre compensatoire dans ce domaine. Voilà ce que je voulais dire très clairement et le plus synthétiquement possible sur ces trois parties-là. La quatrième concerne évidemment la sécurité des citoyens. C'est un sujet important pour nous. Elle est un peu différente de l'économie. Cette sécurité des citoyens reposait sur des principes que les Britanniques ont souscrits finalement, le respect des engagements pris dans la Convention européenne des droits de l'homme, que vous connaissez bien, et enfin la protection des données personnelles, qui est une des clés de la coopération en matière de sécurité. Et donc sur la base de ces engagements britanniques, nous sommes parvenus à un engagement opérationnel de coopération pour Europol, Eurojust, l'extradition, la coopération en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en particulier. Voilà ce que je voulais dire de ces quatre grands chapitres. Le regret que nous avons, chers collègues et chers amis, c'est que les Britanniques n'ont pas voulu, et nous le regrettons aussi, discuter de politique étrangère, de défense et de coopération, notamment avec les pays en développement, l'Afrique notamment. C'était pourtant un des chapitres contenus dans la déclaration politique signée par Boris Johnson en octobre 2019, mais ils ont dès le début dit qu'ils ne voulaient pas discuter de cela, peut-être au nom de ce qu'ils pensent être l'Union européenne. Les Britanniques ont toujours eu une vision plus économique que politique. Peut-être n'ont-ils pas voulu insister au moment où ils partaient sur cette dimension politique de l'Union européenne qu'ils n'aiment pas. J'ai discuté tout à l'heure avec les ministres des Affaires étrangères de l'Union, les 27, qui sont prêts, les yeux ouverts, sans naïveté, de manière pragmatique, à discuter de ces sujets, coopération en matière de sécurité extérieure, de défense, de politique étrangère, de coopération politique, notamment aux Nations Unies, et de coopération en matière de développement. Si les Britanniques le souhaitent, bien sûr ce sera différent d'aujourd'hui, puisqu'ils sont dehors, mais je pense que les Britanniques restent notre plus proche allié, ils restent un grand pays ami et solidaire. Ils ont une politique étrangère active, ils ont une défense crédible, ils ont un siège au Conseil de sécurité, et donc l'intérêt commun commanderait, dans des circonstances qu'il faut établir, à compléter cet accord par un accord de politique étrangère et de défense. Voilà ce que je voulais dire en vous remerciant très sincèrement de votre confiance. Ma mission va bientôt se terminer. La présidente de la Commission m'a demandé de rester à ses côtés quelques semaines de plus comme conseiller spécial pour accompagner le processus de ratification au Parlement européen aux côtés de David McAllister. Je suis heureux de le faire. Et puis après quoi, dans quelques semaines, lorsque cette ratification sera terminée, je quitterai cette mission avec le sentiment du devoir accompli, d'une mission accomplie, grâce à une équipe exceptionnelle qui m'a entouré et grâce aussi à la confiance de tous les services de la Commission, du Parlement européen et du Conseil, mais aussi à la confiance des parlements nationaux que j'ai été très heureux de retrouver tout au long de cette négociation. Merci beaucoup de votre attention.
Muito obrigado, Michel. É um enorme prazer para nós também poder contar contigo em mais esta sessão, neste epílogo de um processo cuja nova fase, e não é certamente menos complexa do que foi negociar as 1.246 páginas do acordo, mais as declarações políticas, portanto as fases que aí vêm não serão certamente momentos fáceis, mas estou certo que, quer do nosso lado, quer do Reino Unido, estaremos à altura deste desafio. Eu irei assim dar a palavra de seguida, com todo o prazer, ao eurodeputado David McAllister, que, como já tive a oportunidade de referir, é o presidente do Grupo de Coordenação no Parlamento Europeu para as relações deste com o Reino Unido. David, a palavra é sua.
Bom dia, Mr. Chairman, ladies and gentlemen, dear colleagues. A warm welcome here from sunny Brussels. The sun is just shining through the window. I would like to also welcome you all and echo the words of Michel Barnier. Thank you for inviting me and for this opportunity to exchange views with colleagues from the national parliaments. I'm happy to share with you, Mr. Chairman, the current work of the European Parliament with regard to the United Kingdom under the scrutiny of the UK Coordination Group, which I have the honour to chair. Before I start, let me thank once again Michel Barnier and his team for all their extraordinary work during the past year and congratulate him on securing this agreement. The European Parliament's vote on consent is indispensable for the agreement to enter into force. Parliamentary scrutiny ahead of this crucial vote is therefore of key importance. Our colleagues, as you know, the Trade and Cooperation Agreement itself sees the provisional application until the end of February. Consequently, the European Parliament plans its vote on consent before the state, allowing sufficient time for the Council to adopt the decision to conclude the agreement. To this end, an extraordinary plenary part session could be scheduled for the 23rd of February. However, and you will be aware of this in all our national capitals, the discussions are ongoing with regard to a possible extension of the provisional application, which would allow more time for scrutiny and later consent vote. Such an extension would need to be requested by the European Commission, mandated by the Council, and agreed in the joint committee. Agreed in the yet-to-be-established EU-UK Partnership Council. With fully understanding our responsibility towards our citizens and businesses, the European Parliament has carefully been examining the text of the agreement, working at full capacity with a view to the vote at the end of February. Should more time be possible, then the better. We will have to wait and see what the Partnership Council decides. In the European Parliament, we are working on the consent procedure with the Foreign Affairs and the Trade Committee in the lead. Nearly all other parliamentary committees contribute as well. In parallel, the two co-rapporteurs within the UK Coordination Group are drafting an accompanying resolution which will contain the European Parliament's position on the outcome of the negotiations. Looking into the future, we are focusing on the agreement's implementation. Important decisions in many policy areas are to be taken by the Council and the Commission. These decisions would develop or even modify the content of the agreement. For us, very important, the European Parliament must stay involved and informed in line with the treaties. Article 218 of the Treaty on the Function of the EU is clear in this regard. Quote, the European Parliament shall be immediately and fully informed at all stages of the procedure. Unquote. To ensure an effective scrutiny and democratic legitimacy of the future decisions, we need to set up a framework for high-level institutional cooperation in this respect. I look forward to cooperating with the Vice President of the Commission, Mara Šefčovič, as the European Union's co-chair in the Partnership Council. A final remark. As you know, the agreement provides for the establishment of a Parliamentary Partnership Assembly and grants this assembly an important right to be informed by the Partnership Council. In resolutions last year, the European Parliament has expressed its support for parliamentary cooperation. On the British side, The Committees on Future Relations with the EU in both the Commons and the Lords have also highlighted the importance of such dialogue. So we will explore with our counterparts in London what kind of body we could foresee to strengthen the parliamentary dimension of our future relations. Mr. Chairman, thank you for your attention, and now I look forward to our discussion. And once again, let me thank Michel Barnier for the outstanding cooperation with the European Parliament in the last months. Thank you.
Muito obrigado, David. Desejo bom trabalho durante o mês de fevereiro. Vão ser dias certamente difíceis para o Parlamento Europeu, mas desejo que seja possível concluir na vertente parlamentar este acordo. Irei então de seguida dar a palavra aos colegas que pediram para usá-la, começando pela colega Sabine Tillay, da Assembleia Nacional Francesa.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci beaucoup à la présidence portugaise de poursuivre cette bonne initiative de nous réunir en dehors de la COSAC proprement dite. Et merci à cher Michel Barnier de venir devant nous discuter des éléments les plus importants de cet accord crucial, une base très importante pour garantir ce level playing field qu'on appelle tous de nos voeux. J'ai deux questions. Le Parlement européen, ça a été un peu exprimé aussi, a regretté de ne pas être suffisamment associé à la discussion de cet accord, devant notamment le ratifier a posteriori, et de ne pas pouvoir influencer les éventuelles procédures de révision de l'accord. Nathalie Loiseau a proposé dans ce cadre la création d'une commission parlementaire de suivi de la mise en œuvre de l'accord, mais ça a été souligné aussi, une assemblée interparlementaire, Union européenne, Royaume-Uni, est en discussion. J'ai beaucoup entendu aussi différentes choses, associations de la société civile, conseils de partenariat, etc. Mais qu'en est-il des parlementaires nationaux? Dans quelles mesures pourrions-nous aussi y être associés? Et ma seconde question, elle porte sur la défense. Ça a été dit aussi, les questions de défense n'ont malheureusement pas pu être traitées dans l'accord. Nous, Français, nous avons notre accord bilatéral de Lancaster House. Il est toujours en vigueur. Mais à l'échelle de l'Union, comment peut s'organiser la relation avec le Royaume-Uni et les modalités institutionnelles dans ce cadre? Merci beaucoup.
Merci, Sabine. Dou de seguida a palavra ao colega Joe McHugh, do Parlamento Irlandês.
Cormagat Cahirla, thank you, Chairman. And thanks to Michel Barnier for his presentation as well. And it's good to see a Frenchman using Irish language today in your Twitter account, Nyinyart Gokorlakela. Michel, it'll be interesting to hear what that is in French. But anyway, two questions. Now that we have the opportunity for new relationships and new partnerships between the EU and the UK, my first question is, would the new Joint Partnership Council be a potential vehicle for national parliaments to forge these new relationships? And the second question, Michel, is with regards to rules of origin for unexpected imports on goods re-imported into the EU following packaging in the UK. It was a sort of unintended consequence. Does the agreement provide for any flexibility measure in its interpretation to ensure that trade in these goods is not needlessly disrupted by measures that were not intended for goods produced in the EU? So there are my two questions. And in my final few seconds, Chairman, I want to wish the Portuguese well in the times as well during your tenure. So amor e mhaith seo. Good luck in the future.
Muito obrigado, Joe. Cabe-me agora dar a palavra ao colega Dragomir Stoinev, da Assembleia Nacional da Bulgária.
Thank you, Mr. President. Dear Mr. Barnier, On behalf of the Committee of European Affairs and Oversight of the European Funds of the Republic of Bulgaria, I welcome the successful conclusion of the negotiation of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement, as I would like to thank you and your team for your efforts and activities implemented so far. Your contribution as Chief Negotiator and Head of the Task Force for Relations with the United Kingdom during the past years is a major accomplishment for the EU and the future relations with the UK. Bulgaria attached great importance to the principle of non-discrimination and equal treatment of the Member States in implementation of the new agreement, and we believe that the European Commission will spare no efforts in this regard. We accept the rights of citizens as an issue of great importance and our priority after Brexit, and we will give special significance to the implementation of the withdrawal agreement. Being one of the challenges of 2020, especially during the COVID-19 pandemic, the Brexit process demonstrates that the common European approach and efficient exchange of information between Member States and the European Commission is a significant sign that the European Union can be strong in turbulent times and that can overcome various obstacles. And in the end, Monsieur Barnier, permettez-moi de vous remercier à ce qui concerne tous vos efforts de trouver le meilleur accord possible pour l'Union européenne et permettez-moi de vous souhaiter, quant à vous et à votre équipe, une année de prospérité, de santé et de bonheur. Je vous remercie et good luck for the rest.
Muito obrigado, Dragomir. É agora a vez de dar a palavra ao colega Konstantinos Evstátio, da House of Representatives de Chipre. Alô, Konstantinos. Alô, Konstantinos. Perdemos o contacto, creio.
Ok. Can you listen to me? Sorry.
Yes, yes, we are hearing you. We don't have your image, but...
But okay, you can listen to me. It's okay, sir. Yes. No problem. First of all, I would like to thank Mr. Barnier and his team for the excellent work they have done. I have four small questions. The first of all is that there are certain points of concern as to the content of the agreement must be raised. First of all, in particular, that the absence of provisions on foreign policy, security, and the education policy, such as Erasmus program, are very serious. Can we wait for a new effort on that issues? My second question is, what about if European Parliament cannot give its consent or referring the agreement to the Court of Justice? What will happen? The third is that there is an intergovernmental relations, and there is this agreement of a possible cooperation between the Parliament of the UK and the European Parliament. Can we wait a analogous situation for the national parliaments of the EU members? A cooperation agreement with the UK Parliament. And the fourth question, what about the bilateral agreements which can be signed or between the EU countries and the UK after the agreement or the signing of the agreement, taking into consideration that many countries had special relations with the UK because of the history, because of being ex-colonies, and every single and every situation like that. Can I have this your point of view on that matter too? Thank you very much.
Muito obrigado, Konstantinos. Dou agora a palavra com muito prazer a Roberta Metsola, primeira vice-presidente do Parlamento Europeu responsável pela, com as relações com os parlamentos nacionais. Roberta, a palavra é tua.
Thank you very much, Lewis, and thank you, Mr. Barnier, for your continued availability to us throughout the Brexit negotiations and today to discuss the outcome of the trade and cooperation agreement concluded with the United Kingdom. The European Parliament is keen to pursue strong inter-parliamentary cooperation with both Houses of Parliament in the UK, and we are pleased to see that the House of Commons echo these sentiments, calling for the establishment of the UK-EU Parliamentary Partnership Assembly that is provided for in the agreement in its recent report on the shape of future parliamentary scrutiny of EU-UK relations. And indeed, in this regard, President Sassoli has already written to counterparts in his house, in the Houses of Parliament, about putting this into practice. And should this assembly be set up, the European Parliament will be establishing a delegation to it. Now, as far as COSAC is concerned, the European Parliament wholly supports the German and Portuguese presidents' approach to opening participation to the UK, depending on the agenda. And within the European Parliament, it still remains possible to invite third country parliaments when committees are organising inter-parliamentary committee meetings, although we'll have to see on a case-by-case basis what the possibilities are for UK participation in other fora within the European Parliament. The priority for us for the time being, as outlined by my colleague Dave McAllister, is to carefully scrutinise the agreement, and various committees are giving opinions on what the relations could be looking at, building, fleshing this out and building trust with the UK as a third country. Building on this trust, I conclude with this, speaking on behalf of many university students across the EU, the UK approach to the Erasmus Plus programme within the wide Brexit negotiation has been a source of disappointment, and we are heartened to see interest from Wales and Scotland in urging students to maintain their participation in Erasmus Plus. What would be your opinion on this, and would your task force be engaging in looking at this into more detail? Thanks.
Muito obrigado, Roberta. Dou de seguida a palavra à colega Susana Somelzo, das Cortes Gerais de Espanha.
Buenas tardes. Desde el Parlamento aquí en España, en la que también tenemos una sesión hoy de la Diputación Permanente, queremos agradecer a la presidencia portuguesa por la organización de esta reunión. Y, por supuesto, queremos trasladar un mensaje de gratitud al señor Barnier por el excelente trabajo que ha hecho y, por supuesto, también a su equipo. Queremos felicitarle por mantener la unidad de los 27 de la Unión Europea, que no era muy fácil en este tema, y por informar a los Estados miembros. Estoy segura que a España nos hubiese gustado un acuerdo más ambicioso, pero dada la cerrazón del Reino Unido, estamos convencidos de que se ha conseguido el mejor acuerdo posible, y por eso le trasladamos nuestro agradecimiento, felicitación y buen trabajo. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.
Muito obrigado, Susana. É agora a vez de intervir Jean-François Rapin, do Senado francês.
Je remercie la présidence portugaise de nous donner l'occasion d'échanger avec Michel Barnier, mais aussi de le remercier, le féliciter pour le travail accompli. Il est parvenu à conclure avec le Royaume-Uni un accord dont le premier mérite est qu'il respecte l'intégrité du marché unique. Après le soulagement, l'inquiétude est rapidement arrivée, car évidemment, tout se joue dans la mise en œuvre de l'accord et donc dans le contrôle qu'il faut désormais opérer sur nos échanges avec les Britanniques. Je veux d'abord évoquer l'asymétrie dans les contrôles vétérinaires. Nous avons des retours d'entreprises qui constatent que nous sommes beaucoup plus exigeants que les Britanniques sur ce point. En effet, une période transitoire durant le premier trimestre permet aux fabricants européens de produits alimentaires d'exporter au Royaume-Uni sans certificat sanitaire, alors qu'à nos frontières, nous demandons un tel certificat aux exportateurs britanniques. Nos entreprises pourraient payer le prix des représailles britanniques, de même que l'embargo avec la Russie leur a fait perdre définitivement beaucoup de marchés. Donc oui au contrôle, mais à condition de réciprocité. Je veux ensuite dénoncer les différences de contrôle entre les États membres. L'organisation des contrôles dans les ports européens les plus concernés, du Havre jusqu'à Hambourg, n'est pas aussi rigoureuse. Certains de ces ports sont tentés de réduire les contrôles pour attirer la marchandise, alors même que les Britanniques annoncent vouloir s'éloigner de nos normes sanitaires et environnementales. C'est un enjeu de sécurité pour les consommateurs, d'équité pour les entreprises européennes qui subiraient une concurrence britannique déloyale et d'équité concurrentielle au sein même du marché unique entre les ports européens. Donc oui au contrôle renforcé, mais alors de manière coordonnée et symétrique à tous les points d'entrée de nos frontières. Mon épilogue sera sur la pêche. Sous prétexte d'avoir passé beaucoup de temps sur son cas, ne négligeons pas ce secteur sur lequel il nous reste beaucoup à faire. Je vous remercie.
Muito obrigado, Jean-François. Dou agora a palavra ao colega representante do Senado belga, Gaëtan van Coetzenhoven.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur Barnier, je tiens tout d'abord à vous féliciter pour le travail colossal que vous avez accompli ces quatre dernières années. Vous avez mené ces négociations avec fermeté et doigté en préservant l'unité des États membres. Nous le voyons aujourd'hui. Avec la mise en œuvre du Brexit le 1er janvier, les avantages du marché unique et de l'union douanière sont nombreux et incontestables. L'augmentation importante de documents à remplir, les contrôles douaniers et les multiples retards, les droits de douane, la TVA et les frais supplémentaires à payer depuis maintenant 3 semaines sont autant d'éléments qui font prendre conscience aux citoyens que ces avantages, s'ils sont pour eux invisibles au quotidien, sont pourtant substantiels. Il est regrettable qu'il ait fallu que le Brexit ait lieu pour que l'on, et les Britanniques en particulier, s'en rendent compte. Le Brexit du référendum à aujourd'hui démontre que le marché unique, mais aussi de manière générale les avantages que représente l'Union européenne, pour ces citoyens ne sont pas toujours bien compris et donc bien expliqués à la population. Dès lors, comment éviter qu'une telle situation se reproduise à l'avenir? Comment faire pour que l'Union européenne, trop souvent considérée comme un mastodonte bureaucratique, soit correctement comprise et appréciée par les citoyens européens? Elle apporte, cette Union européenne, aux plus de 740 millions de citoyens qui la peuplent, beaucoup de choses, et des choses même fondamentales. Il existe sans doute un réel rapprochement à faire entre les institutions européennes et les citoyens. Et je me permets d'insister sur l'occasion que représente la future conférence sur l'avenir de l'Europe en la matière. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Muito obrigado, Gaëtan, pela tua intervenção. Dou agora com muito prazer a palavra ao nosso antigo presidente, Günther Krischbaum. Bem-vindo.
First of all, thank you very much for the opportunity for this exchange this afternoon and also for continuing the COSAC Agora. Thanks a lot also to Roberta Mazzola and David McAllister for this marvelous exchange which we had as national parliamentarians and national parliaments with the European Parliament, and also to the head of the task force, Michel Barnier. Et si vous permettez, j'aimerais m'adresser avec quelques mots en français directement à Michel Barnier. Michel, merci pour ton engagement extraordinaire. Et tu as lutté pour nos valeurs, tu as lutté pour nos positions et ce n'était pas si facile parce qu'au commencement, on a douté si l'Union européenne peut rester ensemble. Et c'était un très, très grand avantage que les pays de l'Union européenne sont restés ensemble. Malgré toutes les provocations, tu es resté toujours calme, c'est adorable et avec beaucoup de passion. Merci, merci encore une fois à toi et à ton équipe. Now I want to continue in the English language because I think also it's a little bit more easier for the participants of this conference. Looking on the time, which is limited, I think the best treaty can only exist if trust is the basic. And I would be interested, Michel, how do you consider the British behavior in the future. Because to be very honest, and it's my private position, this trust was damaged when we had to observe the behavior of the British government concerning the internal market bill. So we can discuss about all the details. We had now a public hearing here in the Bundestag, and we discussed about all the details. But trust will be the basic for our future relation, and how do you consider here the British government and also the British Parliament, including the House of Lords? Luis, thank you.
Muito obrigado, Gunther. Foi prazer ouvir-te. Dou de seguida a palavra à colega da Assembleia Nacional Húngara, Ainalka Joás.
Thank you very much. Let me deeply thank you, Mr. Barnier, for your intensive work as chief negotiator. The unity of the member states is not just a precious asset, but demonstrates well that if needed, we can stay united. At the end of last year, we seemed delighted that the Brexit negotiations came to an end and the MFF and recovery package were also adopted. First and foremost, let me express our welcome for the conclusion of the trade and cooperation agreement between the EU and the UK. The 4 years divorce process was finally completed and settled. However, the EU lost one of its biggest member states. As before, Hungary fully respects the decisions of British citizens and the result of Brexit referendum. As the episodes of past weeks show, that deal is done, but many crucial issues are still unresolved. Our imminent goal is therefore to overcome the open issues from security, duty, and bureaucratic matters to professional qualification or transport and services. The daily and practical challenges should be resolved without undermining the integrity of the single market and the indivisibility of the four freedoms. I do support that the Commission ensures sufficient time for a detailed review of the agreement, avoiding non-compliance with the rules of procedure, and we consider it important to continue the consultations in the framework of the seminars within the working group. Finally, I do hope our bilateral cooperation will later also cover data, defence and other matters providing security and predictability for the citizens of both sides, making the deal fairer. Thank you for your attention.
Muito obrigado, Ainalka. É agora a vez de dar a palavra à colega Ria Omen-Ruiten, do Parlamento dos Países Baixos.
So, many thanks for organizing this event. President, I would like to say once more that I admire the unwavering zeal in the negotiations which has brought in by Michel Barnier. And I want also to add that the way the parliaments also were involved in a very open and constructive way, we admire very much. I have a question. The British have now their trade agreement, but now they can already see that their exports of food, fish, but also necessary imports are threatening their society because of the paperwork, which they hadn't foreseen, I think. Is there a solution for that? That's my first question. The second one is the partnership. For sure, the European Parliament, the European Union, will have a good partnership with the UK. My question is, how can we involve national governments, but also national parliaments in this process? And then the third one, I regret with many of us that we couldn't reach something on external affairs, on external affairs. So, Mr. President, I have to see that our cher Michel has completed his almost mission impossible. He did it with passion. He used his big diplomatic skills, and I would like once again to thank him and his collaborators for everything what he did for the 27 in Europe. Thank you very much.
Muito obrigado, Ria. Acho que todos partilhamos esse teu sentimento. Dou de seguida a palavra à colega Marieta Giannakou, do Parlamento Grego.
I wish you a very successful Portuguese presidency. Monsieur Barnier, cher Michel, allow me to congratulate you for your appointment as special advisor to President von der Leyen as of the 1st February 2021. We are pleased that the negotiations were concluded successfully, even at the last moment. Now we can build a new mutual beneficial relationship between the EU and the UK. Our belief is that the UK will be the EU's best friend and ally. From our side, we will work nationally for the implementation of the agreement while we are preparing the institutional framework in cooperation with Brussels. Due to the urgent need for the implementation of the agreement, some shortcomings might be expected. However, we expect to overcome them effectively. My hope is national and local parliaments and the European Parliament in turn will give their green lights and will not catch us by surprise. Thank you, Mr. President.
Muito obrigado, Marieta. Dou agora a palavra ao Senado rumeno, Angel Tilvar. A palavra é tua.
Obrigado, Luis. I would like to join my colleagues in expressing our strong appreciation for all the efforts undertaken by the European Commission negotiating team and by you personally, Michel, which were essential in reaching this set of best and comprehensive agreements that represent now the basis of our future relations with the United Kingdom. Dear Michel, we are deeply convinced that the result of the negotiations with the UK reflect your personal dedication, energy and spirit of cooperation with all member states and national parliaments. We thank you for that. Yet, starting January the 1st, 2021, the United Kingdom no longer applies the principle of free movement of persons being no longer an EU member state. The London authorities have established a new immigration system applicable to all EU member states. According to it, studying or working in the UK requires obtaining a visa in advance, which can be obtained on the basis of specific criteria as well as by paying specific fees. In this view, Romanian citizens wishing to work in the UK on a long-term basis must apply for a work visa and also pay a visa fee for this purpose. Applicants from 22 EU member states, less Romania, Bulgaria, Estonia, Lithuania, and Slovenia, automatically benefit from a reduction when paying such fee. Citizens of Iceland, Norway, Turkey and Northern Macedonia benefit from the same reduction. In this respect, I would like to emphasize the need to ensure that all EU citizens are treated alike by the British authorities, irrespective of their nationality. I want to kindly ask you, dear Michel, if you consider that it is important to continue to remain vigilant, and I share Günther's stressing the idea of trust, regarding the treatment of our citizens in the UK and their equal opportunities, and to avoid differentiated approaches, and I trust your ability and that of the Commission to continue to uphold this principle in relation with our British counterparts. Thank you very much.
Muito obrigado, Angel. Darei agora a palavra, com todo o gosto, ao Dario Stefano, do Senado italiano, e gostaria de informar os colegas de que dispomos de uma pequena margem de tempo, de modo que, se alguém pretender usar da palavra de forma espontânea, poderemos ainda aceitar duas ou três inscrições. Dario Stefano, por favor, a palavra é tua.
Grazie, Presidente Santos, per questa occasione. Mi associo anch'io alle congratulazioni che un po' tutti abbiamo rivolto a Michel Barnier per la nomina a consigliere speciale post-Brexit della Presidente della Commissione europea. La Brexit è oggi una realtà anche grazie al suo impegno, come lo è anche il raggiungimento del deal, dell'accordo. Ed il Senato italiano ha molto apprezzato la trasparenza che lei ha voluto assicurare al processo negoziale, che ha consentito ai parlamenti nazionali di poter seguire direttamente e dall'inizio tutti i negoziati. In questa nuova fase che riguarda l'attuazione dell'accordo, spetta alla politica nazionale monitorare la sua ricaduta sui cittadini e sulle imprese, mantenendo un dialogo ininterrotto con la Commissione europea per provare a rimuovere eventuali criticità. In questa prospettiva le sottopongo un problema che sta emergendo e che sta comportando gravi conseguenze per le aziende italiane, ma anche, mi è facile pensare, per tutte le aziende europee. Sappiamo che l'accordo tra l'Unione e il Regno Unito è il primo accordo commerciale dell'UE che prevede zero tariffe e zero quote con un paese terzo. Questo è un fatto positivo. Tra i prodotti esentati dai dazi ci sono anche i prodotti agroalimentari. Tuttavia, se all'interno di un determinato alimento è presente per più del 30% del suo peso un ingrediente che proviene da paesi extraeuropei, allora il dazio si deve pagare. Comprendo la ratio, ma pur tuttavia questo comporterà che le operazioni di sdoganamento in molti casi diventino complicate, perché occorre capire la percentuale prodotta extra UE e in più si incrementano gli oneri burocratici che molte piccole aziende fanno fatica ad affrontare. A questo, e vado a concludere, si aggiungono le complicazioni determinate dagli orari della dogana inglese, molto complicati. E molte operazioni quindi, da quanto ci viene segnalato, verranno annullate. Sono problemi concreti che le nostre imprese si trovano ad affrontare già in queste settimane e dobbiamo capire se il Regno Unito continuerà ad adottare comportamenti ostruzionistici o se faciliterà questo cammino. Un ultimo secondo, Presidente, solo per dire che sul piano delle relazioni esterne lei si è giustamente rammaricato del fatto che gli accordi con il Regno Unito non includano al momento alcuna forma di cooperazione in materia di politica estera e di difesa. E in tale contesto la recente polemica di Boris Johnson, che ha negato lo status diplomatico al nuovo rappresentante dell'Unione Europea a Londra, non è certo l'annuncio di una volontà volta a cercare in queste materie nuove forme di dialogo tra le parti. Dobbiamo lavorare molto in questa direzione. Grazie.
Muito obrigado, Dário. Cabe-me agora dar a palavra a Merja Kyllönen, do Parlamento Finlandês.
Can you hear me?
Yes.
Thanks a lot for this opportunity and our best regards from Finland, from the Grand Committee. And of course, special thanks to Mr. Barnier and your team, all the hard work you have done. I have a couple of questions. We have a huge package here with this agreement. And now we have realized that actually British businesses that export to the continent are being encouraged by government trade advisors to set up separate companies inside the EU in order to get around extra charge paperwork and taxes resulting from Brexit. And this is something we have already know that will happen, but we also know that we will have a big problems with small and middle size and even big enterprises with the markets in UK after Brexit. So how do you see the situation right now, and what can be done together? And the other question is about occupational or professional qualifications, because now we have problems with companies to get this kind of recognition of professional qualifications after Brexit. And we know that companies need to have opportunities to change places for the specialists, and now there's difficulties, of course, inside the UK, but also in EU when we are speaking about the UK specialists. So these were the two questions, and thanks to you all.
Muito obrigado, Maria. Dou agora, com todo o prazer, a palavra a Rina Sikkut, do Parlamento da Estónia.
Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Brexit is an extraordinary change for the whole EU, and achieving a deal no doubt required an extraordinary effort and an extraordinary negotiator. So thank you, Mr. Barnier, and thanks to your team as well. Estonia emphasized the functioning single market, fair competition, ensuring social rights and electronic exchange of data, and of course continuing as close cooperation with the UK as possible. The deal is a good compromise, but looking into the future, we consider it important to go on with discussions on security, defense and foreign policy. Possibly to reach a framework participation agreement and European Defence Agency's administrative agreement. Let's build an even closer relationship with the UK and jointly secure the future of Europe. Thank you.
Muito obrigado, Rina. Darei agora a palavra a Emanuela Rossini, da Câmara dos Deputados de Itália.
Buongiorno a tutti, and yes, thank you for this opportunity for sharing our view on the future of the relationship with the United Kingdom. And thanks, Mr. Barnier, for the major effort you made with your team to avoid the disruption of a no-deal Brexit in the middle of a COVID pandemic. So my two questions regards the future agreement or about the relevant issues on which decisions are still to be made. And in particular, the sectoral issues, like all we know, there are many of them regarding renewable energy. But also about financial services. I'd like to ask you, what is the commitment, unwritten or written commitment, about the prospect of reaching common rules on these issues? Or is the future agreement about this in the hands of each country? As it seems, you know, or and about the fact that foreign policies, external security and defense are not include, have not been included is a cause of concern also for my country, because we need common reactions to big global challenges, but also to relaunch transatlantic relations. So what is your feeling about the prospect on these matters? And I conclude by joining other colleagues who asked how to ensure the ongoing involvement of our national parliament regarding, you know, I mentioned the partnership between the European Parliament and UK, United Kingdom Parliament. So how can we continue to be informed and also participate to the future building of the framework of collaborations with the United Kingdom. Thank you.
Muito obrigado, Emanuela. E para finalizar este conjunto de intervenções, antes de devolver a palavra a Michel Barnier, darei agora a palavra a Emanuel Malia, da Câmara dos Deputados de Malta.
And thank you, Chairman, and thank also to Mr. Barnier, his team, and Mr. Barnier for his presentation today. Malta welcomes the fact that the EU managed to secure a number of agreements with the UK, benefiting a clear governance framework. Albeit the application of EU-UK
Emanuel,
trade...
Emanuel, peço desculpa, mas não temos a tua imagem. Aconselho-te a premir o botão de imagem no teu computador.
Ok.
Felizmente okay. Não, mas estamos a ouvir-te... continue a tua intervenção, por favor.
Okay, thank you. As I was saying, albeit the application of EU-UK trade and cooperation agreement is provisional pending the conclusion of formalities, an ODA scenario would have brought immeasurable hardship for citizens and enterprises on both sides. To make matters worse and more complicated, the end of the Brexit transitory period came about in the middle of the COVID-19 pandemic. By extension of Brexit, the UK will no longer form part of the EU single market and customs union, which brings several inevitable changes. While most of the discussion now surrounds the practicalities of the agreement, the real cost of Brexit can only be assessed in a few years' time, when one can weigh the impact in every sector of society. Brexit is already having an impact on goods and mail transport, just to name two sectors which are facing negative consequences because of this. Customs duty and VAT have been greatly affected too, which will most likely lead to a shift in consumer behaviour from the UK services to EU-based services. These are important questions to address. Though through continuous engagement between the European institutions and national parliaments on future EU-UK relations, we can work together to make the transition process as smooth as possible. By fostering close dialogue, we can address the European citizens' concerns about Brexit and find an amicable long-term solution of economic stability in Europe. Thank you, Mr. President.
Muito obrigado, Emanuel. Recebi, entretanto, um último pedido de palavra da colega Danuta Jaslowiecka, da Polónia, e dar-lhe-ei com todo o prazer a palavra. Alô, Danuta?
Hey, hello. Hello.
Alô?
Do you hear me? Hello?
Sim, Danuta, estamos a ouvir-te. Infelizmente não vemos a tua imagem, mas podes prosseguir.
Hello. 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 Hello.
Hello, Danuta, estamos a ouvir.
Hello. Yes, I'm here. Hello. Hello. Hello.
Hello.
Hello.
Sim, podes tentar uma vez mais, Danuta. Que, infelizmente, não é possível estabelecer a ligação. Tenho muita pena, mas teremos certamente outras oportunidades. E assim sendo, cabe-me dar então a palavra a Michel Barnier para tecer as considerações finais que entender convenientes e para dar resposta às questões que foram formuladas. A palavra é tua, Michel.
Merci beaucoup, cher Luis, et encore une fois, merci à toi et à la présidence portugaise d'avoir pris cette initiative dès le début de votre présidence, de ce nouveau dialogue avec les parlements nationaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis toujours très heureux de retrouver mes racines parlementaires nationales, puisque j'ai été élu à l'Assemblée nationale très tôt, il y a longtemps, et très jeune. Et je n'oublie pas les dialogues européens que nous avions à cette époque. Beaucoup de questions ont porté sur cette question de démocratie, d'appropriation démocratique de cet accord, et surtout de la suite de cet accord. Roberta a évoqué l'Assemblée parlementaire entre le Parlement européen et le Royaume-Uni, mais Sabine Tillal, que je remercie, Joe, Dario, Stefano, Emanuela Rossini ont évoqué aussi le rôle des parlements nationaux. Je pense qu'il faudra aussi marcher et trouver des solutions en marchant au fur et à mesure de cet accord. Il y a ce forum de la société civile, qui peut faire l'objet d'un dialogue préalable ou a posteriori avec les parlements nationaux. Il y a les consultations que vos gouvernements doivent faire sur le suivi de l'accord avec le Royaume-Uni. Et vous avez, dans beaucoup de vos parlements, des moyens de contrôle très rigoureux et très, très hebdomadaires pour interroger vos ministres sur ce qui se passe à Bruxelles. Et je pense qu'ils doivent vous répondre. Il y a la COSAC, Louis, et toutes les présidences successives qui peuvent très régulièrement mettre un point à l'ordre du jour de vos assemblées générales où le commissaire, le vice-président Šefčovič ou plus tard quelqu'un d'autre viendra vous dire où on en est. Et puis il y a aussi la task force qui va être transformée puisque la négociation est terminée. Il y aura maintenant deux services au secrétariat général de la commission. Et je suis sûr que cette task force, cette équipe et les commissaires concernés, notamment M. Šefčovič, seront toujours disponibles pour participer à des dialogues et répondre à vos questions. Enfin, je pense qu'on peut montrer en marchant comment améliorer ce que nous avons essayé de faire dans cette négociation, puisque moi-même j'avais pris l'initiative dans toutes les visites que j'ai faites dans les capitales, une, deux ou trois ou quatre fois même, de demander moi-même à être auditionné par vos parlements nationaux, ce qui explique aussi la confiance qui existe entre nous, comme elle existe avec le Parlement européen. Je pense avoir dit régulièrement, dans mes visites, mais aussi au Conseil, ici en face, Paulina Desjmec, qui est à côté de moi, ici, a participé toutes les semaines quasiment à des réunions du groupe de travail du Conseil, 27 Brexit délégués, qui se sont réunis deux fois par semaine depuis 4 ans et demi, et à qui nous avons tout dit à chacun en même temps sur tous les sujets. C'était une des premières fois que ça se passait comme ça. On a tout dit à tout le monde en même temps. Et c'est ça qui explique la confiance. Merci à Ria Homan-Witten, à Angèle Tilvar, Vladimir Stoyev, Susanna, aussi Gunther Kishmo, que j'étais heureux de retrouver, pour votre appréciation du travail que j'ai pu faire. Mais très franchement, c'est un travail collectif. J'ai pu travailler grâce à une équipe exceptionnelle de 70 personnes ici où je me trouve et tous les services de la Commission qui ont travaillé en totale confiance grâce la confiance que m'a faite la présidente Ursula von der Leyen, comme auparavant Jean-Claude Juncker, toute la commission. Je dois vous dire que dans les dernières semaines, ce sont près de 200 personnes qui étaient au travail pendant 2 mois, notamment les 7 derniers week-ends. Nous avons travaillé tous les week-ends avec les Britanniques pour aboutir à cet accord à l'arraché à la veille de Noël. Donc c'est vraiment un travail collectif et je retransmettrai votre appréciation et vos remerciements à toute cette équipe. Konstantinos, Ria, Marietta ont évoqué la politique étrangère, ce sujet que j'ai évoqué moi avec les ministres. Évidemment, le Royaume-Uni reste notre plus proche allié. Il faut rebâtir cette alliance bilatérale. Je ne parle pas de l'OTAN qui continue comme avant, je ne parle pas des relations entre tel ou tel État membre et le Royaume-Uni qui continue, je parle de la relation bilatérale Union européenne-Royaume-Uni. Et nous avons besoin d'un cadre pour coopérer sur le plan politique aux Nations Unies, sur les sanctions, l'éventuelle participation du Royaume-Uni à des opérations extérieures de l'Union, la coopération en matière de services d'intelligence. Comment un pays tiers peut-il participer? Il faudra bien trouver un moyen au fonds d'investissement européen qui vient d'être créé, ou à PESCO, la coopération renforcée, structurée. Voilà, ça c'est une négociation qui peut s'ouvrir de manière réaliste. Les 27 vont en discuter ensemble, et je pense que si le Royaume-Uni en est d'accord, nous pourrons trouver le moyen d'ouvrir une nouvelle négociation sur cette question. Et je le souhaite, pour toutes sortes de raisons géopolitiques, parce qu'on abordera mieux les grands défis géopolitiques ensemble que chacun séparé de l'autre, alors que nous sommes sur le même continent. Roberta a évoqué Erasmus. Les Britanniques ont une idée précise, ils veulent créer un Erasmus concurrent d'une autre. Nous leur avons proposé, Roberta, de participer à notre programme, mais à la totalité du programme pendant 7 ans. Ils auraient voulu faire du cherry picking et faire à la carte une participation pendant 1 an ou 2, le temps de construire leur nouveau programme concurrent, et nous leur avons dit, vous prenez tout le programme pendant 7 ans, ou vous ne le prenez pas. Ils ont choisi de ne pas le prendre, et nous le regrettons, mais la porte reste ouverte. Alors, Jean-François Rapin, que je remercie, Ria Omen-Ruiten, Meria Kilonen, Emmanuel Malia, Mario Stefano ont évoqué, comme Jean-François Goydenhoven ont évoqué le marché unique. Chers collègues et chers amis, je dois dire la vérité. En anglais, Madame May disait « Brexit means Brexit ». Et moi-même, au début de cette mission, je me souviens de ma première conférence de presse en décembre 2016, ça fait 4 ans, j'ai dit « Ne sous-estimez pas les conséquences humaines et sociales, politiques et économiques, juridique et financière de ce Brexit. Même si nous trouvons un accord pour le Brexit politique et institutionnel et ensuite un accord sur le Brexit économique, il y aura des conséquences. Ça ne sera pas business as usual. Et ce n'est pas business as usual parce que le Royaume-Uni a quitté le marché unique. Et donc, je dis sur le point évoqué par Emmanuel Malia, je crois, ou Mario Stefano sur les règles d'origine, tous les produits qui rentrent chez nous, d'où qu'ils viennent, doivent respecter les règles d'origine, les règles sanitaires, les règles phytosanitaires, les règles de sécurité des produits. Nous devons contrôler tous ces produits. Nous devons cette protection aux consommateurs pour leur propre protection, leur santé. Nous la devons au budget. Beaucoup de budgets nationaux et le budget européen sont alimentés par des taxes, la TVA, ou les droits de douane, quand il y en a. Et puis, nous le devons aux entreprises pour protéger. Je dis, Mario Stefano connaît bien la question de la contrefaçon. Comme beaucoup de pays, nous savons que la contrefaçon détruit 250 000 emplois par an chez nous. Donc, on doit protéger nos entreprises d'importation de produits qui ne respecteraient pas les règles européennes. Donc, ça, c'est définitif. Et il n'y aura pas de nouvelles négociations là-dessus. Je le dis très clairement à Emmanuela Rossini, la négociation économique est terminée. On doit maintenant mettre en œuvre cet accord précisément, objectivement, de manière pragmatique, mais il n'y aura pas de nouvelles négociations sur ces questions. On peut faire de nouvelles négociations, Emmanuela, sur la politique étrangère, la défense, la coopération. Il n'y aura pas non plus de négociations sur les services financiers. les services financiers n'ont jamais été prévus dans cette négociation. Ils font l'objet de discussions en dehors et nous prendrons des décisions unilatérales, comme nous l'avons fait avec les États-Unis ou avec le Japon, pour attribuer certaines équivalences à certains services ou acteurs financiers quand ça sera notre intérêt et en veillant toujours à une règle impérative qui est celle de la stabilité financière de la zone euro et du marché unique, parce que nous n'ayons pas la mémoire courte. Nous savons quelles ont été les conséquences de la crise financière en raison d'un manque de supervision et de régulation. Nous avons reconstruit cette régulation, cette supervision, et donc nous serons très vigilants dans toutes les équivalences que nous donnons ou que nous reprenons unilatéralement pour que rien ne vienne mettre en cause cette stabilité financière qui est dans l'intérêt de toutes les entreprises et aussi de tous les épargnants. Voilà. Il y aura aussi à mettre en œuvre l'accord sur l'énergie, Emmanuel Arossini, qui est prévu. Le cadre existe, l'interconnectivité. S'agissant du changement climatique, nous n'avons pas pu mettre au point un accord très opérationnel parce que les Britanniques n'ont pas encore leur propre système national de carbon pricing. Mais dès qu'ils l'auront, nous avons prévu une coopération avec eux sur le prix carbone également. Voilà ce que je voulais dire à ces questions qui exigent de la vigilance. Y inclut Jean-François Rapin sur la pêche. L'accord est raisonnable, il est équilibré, mais je reconnais qu'il faudra le suivre dans le détail, y compris maintenant. Bon, il y a des périodes d'adaptation pour obtenir les licences sur les bateaux, mais aussi dans 5 ans et demi, à la fin de la transition, où les Britanniques vont retrouver une souveraineté totale sur leurs eaux, pour l'accès aux eaux, qui sera discuté tous les ans. Ça va être une décision difficile. Ils peuvent avoir la tentation de fermer des zones complètes. Dans ce cas-là, nous devons être prêts à utiliser les outils de réaction, de compensation qui sont prévus dans l'accord. Je fais le lien d'ailleurs entre la pêche et l'énergie pour rappeler aux parlementaires nationaux que nous avons mis dans cet accord avec les Britanniques une clause miroir par rapport à la pêche dans l'énergie. Et donc il y a dans l'énergie une clause qui prévoit une période de transition de 5 ans et demi, exactement la même durée que pour la pêche, et après, pour l'interconnectivité électrique, il y aura une discussion annuelle avec les Britanniques, exactement comme pour leur accès aux eaux. C'est ce que j'avais appelé l'accès réciproque au marché et aux eaux. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, unité, mise en œuvre vigilante, je le dis à Analka Juat qui a évoqué cette question. Meria Kilonen pour les reconnaissances des qualifications professionnelles. Malheureusement, c'est le Brexit. Alors, nous pouvons coopérer sur les questions des professions, mais la reconnaissance automatique et mutuelle, c'est terminé, parce que les Britanniques sont sortis du marché unique. Et donc, nous n'avons plus de reconnaissance automatique en matière de qualifications professionnelles. C'est une des conséquences automatiques et mécaniques du Brexit. Angèle Tilvan a évoqué la mobilité. C'est une très grande différence à partir de maintenant entre ce qui existait avant, la libre circulation, et ce qui existe à partir de maintenant avec la nouvelle politique d'immigration britannique, qui est très différente avec des permis à points et des risques de décision qui pourront être différentes selon les pays. On a obtenu, Angèle, sur la question des visas de court terme, qu'il n'y ait pas de discrimination pour les visas de court terme. En revanche, pour les visas de long terme, malheureusement, nous n'avons pu obtenir les mêmes dispositions. Je crois avoir répondu. Rina Sikout a évoqué aussi le cadre de défense et de l'action extérieure. J'ai dit que, comme les ministres, nous sommes prêts à ouvrir si les conditions sont là et si les Britanniques le souhaitent. Il faut être deux pour faire un accord, une nouvelle négociation pour faire ce que les Britanniques n'ont pas voulu l'année dernière, c'est-à-dire un accord de coopération en matière de défense et de politique étrangère. Voilà, Louise, j'espère avoir répondu à toutes les questions que nous avons notées. Nous restons dans les semaines qui viennent disponibles si les parlements nationaux que vous représentez veulent poser des questions précises sur tel ou tel aspect pour vos propres besoins de consultation et d'information dans vos commissions nationales. nous restons, je reste disponible pendant quelques semaines auprès de la présidente de la Commission pour ce processus de dialogue avec les parlements européens, évidemment, puisqu'ils doivent procéder à la ratification, mais aussi avec les parlements nationaux, si vous avez des questions spécifiques. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre invitation et j'étais très heureux de ce dialogue tout au long de ces 4 années avec chacun de vos 27 parlements nationaux dans chacun de vos pays. Et je vous remercie de votre confiance.
Muito obrigado, Michel. O prazer foi igualmente nosso, foi uma honra e um privilégio, no final deste ciclo tão difícil, poder contar uma vez mais com a tua presença e com os teus esclarecimentos. Não é muito comum um político reunir um tão vasto consenso sobre uma matéria tão complexa e foi também muito gratificante para mim ouvir a opinião generalizada de todas as latitudes e que eu subscrevo na íntegra. Muito obrigado, Michel Barnier. Tu seras toujours bienvenu. Merci et à bientôt. Quero agradecer também a todos os colegas as intervenções que fizeram. Creio que atingimos os nossos objetivos. Foi uma reunião esclarecedora. Todos temos consciência que este foi um processo que se encerrou e, simultaneamente, se abriu um novo e complexo capítulo que iremos certamente continuar a acompanhar e penso que em próximas reuniões iremos discutir qual o relacionamento dos Parlamentos Nacionais através da COSAC com o Parlamento Britânico. Gostaria de relembrar-vos que teremos ainda esta semana, na próxima quinta-feira, às 10 horas de Bruxelas, um encontro, desta vez, com a comissária Vera Jourova, para discutirmos o plano de ação para a democracia europeia que foi recentemente apresentado. Eu gostaria que esta reunião não fosse tão próxima daquela que acabámos de ter, mas tivemos, obviamente, que ajustar o nosso calendário ao calendário de disponibilidade da comissária. Voltaremos depois a encontrar-nos daqui por 2 semanas com a comissária Kyriakides para tratar também uma questão tão importante quanto é a questão da saúde no contexto da pandemia, que infelizmente não para de agravar-se em alguns Estados-membros e é razão mais do que suficiente para tentarmos construir uma forte União Europeia da Saúde. Gostaria de, uma vez mais, agradecer a todos e desejar-vos bom trabalho e muito boa saúde para os próximos dias. Muito obrigado.